France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le massacre d'Oradour-sur-Glane, second épisode de notre série consacrée aux crimes de guerre de la division Das Reich en France. Présente dans le sud du pays depuis le début de l'année 44, cette division SS a pour mission de nettoyer la région de ses nombreux réseaux résistants avec comme arme habituelle la terreur. Dans sa lutte contre les maquis, cette division blindée n'hésite pas à s'en prendre aveuglément aux populations civiles. Une manière de semer l'effroi et donc de couper l'envie à quiconque de rejoindre les rangs de ceux qu'ils appellent des terroristes. À l'annonce du débarquement du 6 juin 44, la division Das Reich se met en route en direction de la Normandie. Scindée en plusieurs convois, elle prend des chemins de traverse pour continuer son travail de répression lors de son voyage. Le 9 juin, plusieurs de ses unités investissent la ville de Tulle, alors aux mains de la résistance, et pendent 99 habitants. C'est l'épisode que nous vous racontions hier. Le lendemain, le 10 juin donc, un autre régiment de la Das Reich prend la direction d'Oradour-sur-Glane. Elle assassine ses habitants, seulement quelques-uns arrivent à s'enfuir. Au lendemain de la guerre, Oradour devient ainsi le symbole et la réalité de la barbarie nazie en France. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Vermaar, auteur de l'ouvrage « Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944, histoire d'un massacre dans l'Europe nazie », livre paru en 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Marie Kirchen, rédaction chez Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944. Ce village du département de la Haute-Vienne est particulièrement animé aujourd'hui. C'est samedi, les habitants se pressent dans les nombreux commerces du bourg. Il y a d'autant plus de monde dans les rues qu'il est prévu ce jour-là une vente de tabac, un produit rationné à cause de la guerre, tout comme le sucre ou le vin, et qui ne peut être acheté que certains jours. Pour le reste, on ne souffre pas trop des privations à Oradour. Les légumes, la viande, le lait sont produits localement, donc bien plus accessibles que pour les gens des grandes villes. On peut pêcher des poissons dans la Glane, la rivière qui longe, le bourg. Et puis depuis 1911, un tram relie à Limoges, situé à 20 km de là, cette petite ville. Bref, on vit plutôt bien à Oradour. Alors bien sûr, le conflit a modifié un peu la vie de la commune, qui a accueilli quelques réfugiés suite à la guerre d'Espagne. Puis des Lorrains et des Alsaciens, après l'annexion de leur province par les Allemands. Mais certains jours, on en oublierait presque la guerre. D'ailleurs, on ne croise pas d'Allemands à Oradour. Ce samedi à 14h, donc, il y a la queue devant le salon de coiffure, par exemple. Marcel et d'autres copains attendent que le coiffeur revienne de sa pause déjeuner. Et ils sont en grande discussion sur le match de foot qui doit avoir lieu le lendemain et ils sont bien ennuyés, car il leur manque un gardien de but. Quand soudain, un vrombissement venant de la route attire leur attention. Robert Ebras, 18 ans à l'époque, est à quelques pas de là. Il se remémore la scène dans le documentaire « Une vie avec Oradour » de Patrick Serraudy.
Il est 14h. Mon ami Brissot est là, il vient me voir pour parler de choses et d'autres, surtout du foot du lendemain. Puis on entend un bruit de ferraille. Alors on se retourne, qu'est-ce qu'on voit? Les véhicules semi-chenillés qui montent le village. Ils passent devant nous, il y a des soldats à l'intérieur en armes. Et puis ça arrête en haut du village. Alors moi déjà au départ, dans mon esprit, c'est 4 jours après le débarquement. Pour moi c'est la direction de la Normandie. Je me dis c'est la troupe qui passe pour le débarquement.
Mais ces Allemands ne vont pas en Normandie. Ou tout du moins, pas tout de suite. Il s'agit de la 3e compagnie du 1er bataillon du régiment d'Air Führer de la terrible Das Reich. Présente dans le sud de la France depuis plusieurs semaines, cette division Waffen-SS a multiplié les expéditions punitives contre le maquis, n'hésitant pas à battre froidement les civils. Ils sont 120 soldats à investir Oradour ce jour-là, peut-être plus. En quelques minutes en tout cas, un cordon encercle la paisible bourgade. Aux habitants, ils ne donnent qu'une seule consigne. Tous doivent se rendre sur le champ de foire. Les SS cognent aux portes et répètent « Raus, sortez !» et égare à ceux qui résistent. Mais en réalité, la très grande majorité des villageois obtempèrent. Après tout, il n'y a aucune raison que ces Allemands s'en prennent à eux. Ça doit juste être un contrôle de routine, se dit-on. À sa mère qui s'inquiète tout de même, Robert répond qu'il a ses papiers, donc tout va bien. Mais si lui est en règle, d'autres ont très peur d'être interpellés. Notamment quelques juifs qui ont trouvé refuge ici, loin des villes et des garnisons nazies. C'est le cas de la famille Pinède. Alors, le père demande à ses enfants de se cacher. Comme en témoigne Jacqueline, la fille aînée, âgée de 19 ans à l'époque, pour le documentaire de Patrick Serodi.
Quand les Allemands sont donc arrivés, il nous a dit, les petites, allez vous cacher. Et là, nous sommes allés derrière la maison, où il y avait un petit escalier qui appartenait à l'hôtel où était ma grand-mère. Et c'était tout petit, c'est là où on mettait les râteaux et la brouette. Et nous nous sommes cachés tous les trois là, de 2h30 jusqu'à 6h30, sans bouger. Et mon petit frère n'a pas bougé.
D'autres cherchent à fuir ou à se tirer dans leur logement. Des réfractaires du STO, le service du travail obligatoire, des prisonniers de guerre évadés, un militant connu pour son engagement communiste. Savamment cachés, ceux-là vont passer à travers les mailles du filet. Mais d'autres sont débusqués et parfois aussitôt abattus. Fouillant soigneusement chaque bâtiment du village, les nazis passent également dans les écoles pour rafler des enfants. Malgré leur vigilance, un élève va réussir à leur échapper. Il s'agit du petit Roger Godefrin, 8 ans à l'époque du drame, qui raconte au micro de la RTF 5 ans après les faits.
Quand nous étions à la classe Lorraine exprès, faite pour les enfants lorrains de Charlie, notre maître nous mit à plat ventre sur le plancher de la salle pour éviter que les balles nous atteignent. Ensuite, nous avions été à l'école enfantine où les murs étaient plus épais. J'étais à la dernière porte de l'école lorsqu'un Allemand rentra par l'autre porte et dit Raus à tout le monde. Tous étaient effrayés. Pendant que M. l'instituteur de Charlie, M. Goujon, parlait à l'Allemand, j'ai pris la porte en appelant mes deux sœurs, Marie-Jeanne et Pierrette, mes deux plus grandes sœurs, qui n'ont voulu pas revenir. Et je suis partie dans les jardins, par la cour de l'école. Je me suis cachée dans la salade où les Allemands me tirèrent dessus.
Après une course à travers les champs et un saut dans la glane, Roger Godefrin réussit à semer les soldats qui le poursuivent. Avec le petit frère de Jacqueline Pinède, il sera le seul enfant à échapper au massacre. En moins d'une heure, en effet, les SS ont réussi à rassembler l'ensemble de la population, soit environ 650 femmes, hommes et enfants, sur le champ de foire. Les habitants prennent leur mal en patience et attendent calmement que les soldats veuillent bien les libérer. Le pâtissier, il s'inquiète pour ses gâteaux en train de cuire au four. Il voudrait pouvoir aller vérifier qu'ils n'ont pas brûlé. Un SS lui répond en français, avec un léger accent, de ne pas s'inquiéter. Il a encore le temps. Les SS séparent alors la foule en deux groupes. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Ils demandent aux hommes de se retourner face au mur des maisons, tandis qu'ils vont escorter les femmes et les enfants vers l'église. Les habitants laissent échapper des cris et des sanglots. Elles ont peur pour leur mari, leur fils. Que vont-ils en faire? Certaines familles désobéissent et arrachent une dernière embrassade, avant que chacun reparte de son côté. Une fois les femmes et les enfants dans l'église, un officier prend la parole et prétend qu'il soupçonne une planque de munitions dans le village. Tous ceux qui possèdent des armes doivent se signaler. Mais personne ne bouge. C'est le silence. Un homme finit tout de même par prendre la parole. Il a une carabine, mais du 6 mm. Tout juste bon à tirer sur les moineaux, et c'est pas ça que le SS recherche. L'officier se tourne alors vers le maire du village, le docteur Paul Desourteaux, et exige qu'il sélectionne des otages parmi la foule. Impossible, le pauvre homme ne peut s'y résoudre. Alors, courageux, il propose à la place que ses fils et lui-même se constituent otages. Mais bientôt, il n'est plus question de ça, et les SS annoncent qu'ils vont fouiller toutes les maisons pour trouver ses armes. Ils séparent les hommes en petits groupes, qu'ils répartissent dans 6 granges ou garages. Robert Ebras fait partie de la 60aine de personnes emmenées dans la grange Loudy. Ils ne sont pas vraiment inquiets, ils savent pertinemment qu'il n'y a pas d'armes cachées dans le village. Si la résistance est très active dans la région, il n'y a aucun maquis à Oradour. En face d'eux, une mitrailleuse a été installée. Les 6 SS qui les gardent bavardent, ils rigolent même, oui. Rien ne laisse penser que ces hommes s'apprêtent à commettre l'un des massacres les plus terribles de l'occupation allemande en France. L'un des rescapés du drame, Marcel Dartout, raconte ce moment en 2013 au micro de France Culture.
Il y a eu après la visite, c'était un sous-officier, je pense que c'était un sous-officier, qui est venu leur parler. Et c'est là que notre ami Joseph nous a dit, ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Il parlait comme ça, Joseph, par un coup, ils vont nous tuer. Arrête, Joseph, tu dis ces conneries. Si, j'ai entendu. Tais-toi, Joseph. Et tout le monde s'y est mis, tous les copains étaient là. Tu sais, ils nous vendent nos papiers, et puis c'est tout. Joseph, il avait raison. On l'a pas cru. Lui, il le savait. À partir de ce moment-là, Joseph, il n'a plus rien dit. Et nous, on continue toujours à parler de notre match de foot.
Soudain, les hommes entendent un coup de feu. C'est un signal. Dans chacun des six lieux où sont retenus les prisonniers, les mitrailleuses se mettent à cracher leurs balles dans un bruit assourdissant. Dans la grange, l'Audi, tous les hommes s'effondrent les uns sur les autres. Certains sont tués sur le coup, d'autres seulement blessés. Des râles de douleur, des pleurs émanent de l'amas des corps. Voyant qu'il reste des survivants, un soldat entreprend d'achever les victimes, un par un, une par une, au revolver. Il fait le tour, monte sur la masse des corps, et dès qu'il perçoit le moindre mouvement, il tire. Marcel Dartout fait partie de ceux qui sont touchés, mais encore vivants.
Le bruit de la culasse qu'on arme, clac, clac, clac. Ça, je l'ai encore dans la tête. Et à la fin, il est venu, le pied sur l'épaule. Et là, je lui dis, c'est pour toi, Marcel. Et quand il a tiré, c'est pas moi. C'est celui qui était sur moi. C'est qu'après que j'ai su que c'était Joseph qui était sur moi. Et Joseph a été tué là. Je l'ai senti qu'il tressaillait et qu'il s'est arrêté. Quand tout le monde a été tué, ils ont commencé à nous mettre, à nous recouvrir de paille, de foin, etc. Pendant qu'ils faisaient le tour, j'avais touché en me bougeant, parce que j'étais mal, ça me faisait mal, j'avais touché la main de quelqu'un. Une main toute humide. Qui es-tu? Aliotti. Et toi? Marcel Dartout. Qu'est-ce que tu as? J'ai les jambes cassées, il me dit.
Ils sont une dizaine, comme ça, enfouis sous les cadavres et dans une mare de sang, à avoir échappé à la vigilance des assassins. Mais bientôt, ils entendent le bruit d'une flamme qu'on allume. Les SS viennent de mettre le feu à la paille qu'ils ont placée sur les corps. Alors les survivants tentent de s'ensevelir un peu plus pour échapper à l'embrasement. Mais certains sont trop mutilés pour se mouvoir. D'autres peuvent encore marcher. Mais s'ils tentent de s'enfuir, ils savent qu'ils seront aussitôt fauchés par une balle. Alors, que faire ? Marcel Dartout sent le feu lui mordre l'épaule. Perdu pour perdu, il vaut mieux mourir d'une balle plutôt que brûler vif. Alors il s'extrait du brasier. Et là, miracle, les Allemands se sont absentés. Marcel se réfugie au fond de la grange, où il retrouve quatre autres rescapés. L'un d'eux repère sur le mur un petit passage, là, en hauteur. On lui fait la courte échelle, et avec son couteau, il arrive à faire tomber quelques pierres. Assez pour qu'un homme puisse passer. Alors, les cinq camarades d'infortune se glissent par cette ouverture et retombent dans un grenier où est stocké du foin. Ils se cachent soigneusement. Ils seront les seuls à sortir vivants des six fusillades dans les granges. Pendant ce temps, dans l'église, les femmes et les enfants sont toujours enfermés, ignorant le terrible sort qui vient d'être réservé à leurs proches. Au bout d'une heure d'attente, les soldats pénètrent dans la nef et y déposent une grande caisse d'où débordent des ficelles. À peine sont-ils ressortis qu'une détonation retentit dans la boîte qui se met à dégager une fumée noire asphyxiante. La déflagration entraîne une scène de panique totale. On tousse, on hurle, des enfants pleurent, on accourt vers la porte, il faut tenter de s'échapper à tout prix. Mais alors que la foule s'agglutine vers la sortie, elle est fauchée par les balles des Allemands qui, depuis l'extérieur, mitraillent l'édifice. Puis des nazis rentrent à nouveau dans l'église pour allumer un feu. Gisant au sol, des femmes et leurs enfants appellent à l'aide. Mais les nazis condamnent tous les survivants de la fusillade à être brûlés vifs. Marguerite Roufanche, elle, s'est réfugiée dans la sacristie avec ses deux filles. Dans les années 70, elle témoigne pour Radio France.
Nous avons eu un petit moment où la fumée s'est dispersée. J'ai couru dans la sacristie avec mes filles. Et que s'est-il passé après, je n'en sais rien. Toujours est-il que, moment après, on a eu un peu d'air par les vitraux qui étaient cassés. ça nous a dégagés. Et alors, j'ai aperçu ma fille à côté de moi qui avait été tuée d'une balle traversant la carotide. Et alors après, ma fille a perdu son bébé, parce que j'avais une fille qui était mariée, qui avait un bébé de 7 mois. Elle revient, elle dit « Maman, j'ai trouvé le petit, mais je ne peux pas vous dire s'il était mort ou vivant. » Et alors, voyant arriver les flammes dans cette sacristie, je sors dans la sacristie pour me cacher derrière le maître-autel. Alors là, je trouve un escabeau, je monte dessus, sans réfléchir, je me jette par la fenêtre. Le hasard a voulu que je ne me suis rien cassé.
Malgré ses blessures, Marguerite arrive à ramper jusqu'au jardin du presbytère et se cache là, au milieu des plants de petits pois. Elle sera la seule survivante de l'église où les Allemands ont aussi déposé une charge explosive, puis des engins incendiaires dans le clocher pour détruire le bâtiment. La toiture effectivement est en flammes et les cloches se mettent à fondre. Des coulées de bronze dégoulinent sur les pierres et bientôt le toit du clocher finit par s'effondrer. Un peu partout ailleurs dans le village, les troupes de la division Das Reich déclenchent d'autres incendies. Ils pillent tout ce qu'ils trouvent, puis mettent le feu aux maisons. Et c'est tout le bourg qui doit être réduit en cendres. À chaque coin de rue, on entend des crépitements rythmés par le bruit d'une poutre qui s'effondre ou d'un éboulis de pierre. Bientôt, dans les hameaux alentours, on s'inquiète. Pourquoi est-ce qu'aucun enfant n'est rentré de l'école ? Certaines mères se mettent en route pour aller les récupérer, mais elles sont fusillées dès leur arrivée. Vers 18h, le tramway venant de Limoges s'approche d'Oradour. Camille Senon est à son bord. Elle raconte en 2021 sur France Inter.
On est arrivé jusqu'aux abords d'Oradour, où là, au débouché d'un virage, nous avons vu en face de nous l'église en flammes. Les maisons du bas du bourg étaient également incendiées. Et là, il y avait plein de soldats. Et donc, ils ont fait stopper le tramway. Un SS est venu et a dit « Les voyageurs à destination d'Oradour doivent descendre. » Nous nous sommes retrouvés là, une vingtaine de personnes. Ils nous ont emmenés dans un champ. Et alors là, il y a donc un groupe de SS qui nous gardait. Et puis il y avait dans le champ un autre groupe qui était en train de creuser le sol. Mais on ne savait pas pourquoi.
Après une attente interminable, vers 22h, le groupe est relâché et se réfugie dans les villages voisins. Le lendemain, des maisons d'Oradour sont toujours en flammes. Les derniers Allemands sur place quittent les lieux en début d'après-midi. Quelques habitants des environs s'aventurent alors dans les décombres. Le spectacle qu'ils découvrent est abominable. Dans les granges, dans l'église, des corps carbonisés, figés dans des rictus de douleur. Là-bas, au milieu des cendres, un landau criblé de balles. Mais aussi des bouts de corps, des pieds, des mains. Alors qu'ils voient défiler devant leurs yeux les traces de cette insondable cruauté, une question envahit leur esprit, lancinante, terrible. Pourquoi ?
Down to my
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le massacre d'Oradour-sur-Glane.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Oui, pourquoi ? Pourquoi de telles horreurs contre des civils dans ce village d'Oradour, qui n'est même pas un bastion de la résistance ? Mais l'objectif de la division Das Reich, c'est bien de semer la terreur parmi les civils. Et ces exactions sont un message. Pour les SS, la manière dont le massacre va être présenté est donc capitale. Le jour même, et dans les jours suivants, ils racontent des balivernes aux résidents des environs. Certains expliquent que cette tuerie a eu lieu pour punir la capture d'un officier, d'autres que des villageois leur auraient tiré dessus, ou encore qu'une cache d'armes aura été découverte. Les versions varient, mais le but est toujours le même. Excuser le crime SS, le justifier même, et rendre la résistance responsable de tout. Quand le gouvernement de Vichy apprend la nouvelle de ce bain de sang, il est très embarrassé. Parce que celui-ci a visé des bons Français, pour reprendre son vocabulaire. Et parce qu'il prouve, une fois de plus, que le régime collaborationniste n'est pas le moindre mal qu'il prétend incarner. Choqué par la brutalité des nazis, le préfet vichyste de la région se rend au siège de l'état-major allemand à Limoges, le 12 juin 1944, pour protester auprès du chef des autorités d'occupation. Vichy qui se plaint auprès des Allemands, mais oui. Mais quand le gouvernement pétainiste évoque ce drame, c'est pour mieux charger la résistance. Ainsi, 2 mois après les événements, son porte-parole estime sur Radio Paris que si le village d'Oradour est bien une population innocente, elle a payé pour les méfaits d'autres Français qui, eux, ont désobéi au maréchal Pétain. Mais bientôt, le territoire français est libéré et le régime de Vichy est tombé. Le gouvernement provisoire s'installe avec le général de Gaulle à sa tête. Oradour devient alors, très vite, le symbole des malheurs de la patrie, comme l'énonce le général alors qu'il visite le village martyr dès mars 1945.
Il n'est pas possible d'exprimer les sentiments que l'on ressent quand on se trouve, comme c'est mon cas, au milieu de votre village, dans l'état où ils l'ont mis. Mais ce qui est possible et ce qui doit être fait, c'est d'en tirer quelques conclusions. La première qui me frappe l'esprit, c'est qu'un malheur de cette sorte n'est pas seulement le malheur d'un village. C'est un incident, c'est un accident qui frappe le pays tout entier. Oradour est un symbole de ce qui est arrivé à la patrie elle-même.
Alors, faut-il reconstruire Oradour-sur-Glane ? Les bâtiments sont tellement abîmés. Sur place, pointe une autre idée. Garder les ruines intactes, telles qu'elles ont été laissées par les Allemands, pour graver la mémoire. Le projet est rapidement accepté et repris par le cabinet du général de Gaulle. En 1946, une loi spéciale est votée par l'Assemblée nationale qui acte la préservation des ruines et la reconstruction d'un nouveau village sur un terrain proche. Désormais, Oradour est un monument historique, administré à l'échelle nationale. Pour les proches des victimes, outre le chantier de la préservation du souvenir, il y a aussi celui de la justice. Réunis dans une association des familles de martyrs, créée dès 1945, ils espèrent voir les coupables de ce crime atroce punis, et très vite. Hélas, la justice tarde à passer. Après diverses difficultés à envoi, le procès s'ouvre enfin devant le tribunal militaire de Bordeaux le 12 janvier 1953, soit 8 ans après le drame. Et première déception pour les familles victimes. Les officiers de la 2e division SS ne sont pas sur le bord des accusés. Le commandant du 1er bataillon du régiment Der Führer, Adolf Dickmann, qui a dirigé les opérations à Oradour, est mort lors de la bataille de Normandie. Quant au général Lammerding, qui était à la tête de la division Das Reich, il a réussi à regagner l'Allemagne et la France n'arrive pas à obtenir son extradition. Alors, parmi la vingtaine d'accusés, on ne trouve que des subalternes. Pire, certains d'entre eux sont français. Comment est-ce possible ? Mais si. Ce sont des Alsaciens enrôlés de force dans la division Das Reich, alors que l'Alsace-Lorraine était annexée par l'Allemagne. On les appelle les malgré-nous. En effet, en 1942, le service militaire dans l'armée allemande était devenu obligatoire pour les jeunes hommes de la région. Si environ 40 000 d'entre eux ont réussi à fuir ou à déserter, près de 160 000 ont dû servir sur les drapeaux du Troisième Reich. Et cela va considérablement compliquer le procès, comme l'annoncent les actualités de l'époque.
Le procès de Radour s'est ouvert au tribunal militaire de Bordeaux. Au nombre des 19 accusés, 13 Alsaciens enrôlés de force dans la division SS qui exécuta le massacre sont venus se présenter à la justice. Mais c'est aussi un nouveau drame qui se lève, celui des Alsaciens enrôlés de force dans la Wehrmacht, les malgré nous. Et toute l'Alsace suivra avec émotion jusqu'à la dernière minute les péripéties de ce procès d'Oradour qu'il atteint au plus profond de son âme.
En août 1944, une ordonnance du gouvernement provisoire avait prévu que les soldats étrangers puissent être poursuivis devant les tribunaux militaires pour crimes de guerre. Mais elle ne s'applique pas aux Français, et donc pas aux Alsaciens. Pour pouvoir les poursuivre, le Parlement a dû voter une loi d'exception en 1948 qui stipule que les militaires appartenant à une organisation criminelle comme la division Das Reich peuvent être considérés comme les co-auteurs d'un crime de guerre. On introduit donc l'idée d'une responsabilité collective, que les soldats en question soient étrangers ou français. C'est ainsi que les Alsaciens se retrouvent parmi les accusés, au même titre que les Allemands. Mais ça, pour bien des gens en Alsace, c'est absolument insupportable. Les avocats de ceux qui se surnomment les malgré nous vont donc demander que leur cas soit disjoint du procès des Allemands, comme le révèle à l'époque le chroniqueur judiciaire de la RTF.
Le bâtonnier Schreckenberger va le premier plaider la disjonction pour les Alsaciens. Il le fait avec une force et une persuasion peu communes sur laquelle nous aurons d'ailleurs à revenir. Ces accusés français, dit-il en substance, sont victimes eux aussi du plus monstrueux des crimes de guerre, l'engagement de force dans la Waffen-SS. Le crime de guerre nazi en Alsace a causé 40 000 morts. Je voudrais que ce tribunal de Bordeaux le sache, le sente, s'en persuade. Après le bâtonnier, Maître Schmitt évoque la vie des départements alsaciens occupés par les nazis. Ce fut la terreur et ce fut l'oppression. Nous aurons aussi à revenir sur cette terreur et sur cette oppression. Puis, Maître Schmitt continue. Et nous serions aujourd'hui, après ce que nous avons souffert, nous serions sur les mêmes bancs que des Allemands, s'écrie-t-il. Messieurs, ça, nous ne l'admettons pas.
S'ils étaient bien à Oradour, c'est malgré nous n'y avoir personnellement participé à des meurtres. Et puis l'un d'eux a reçu la croix de guerre dans l'armée française en mai 40, plaide leurs avocats. D'autres ont brocardé le régime hitlérien avant d'être contraints à l'incorporation. En Alsace, des élus locaux prennent leur défense. Parce qu'à travers ce procès, ce seraient tous les enrôlés de force qui seraient stigmatisés. Et puis, les juger comme des Allemands, n'est-ce pas d'une certaine façon entériner l'annexion d'Alsace par l'Allemagne ? Dans le Limousin, au contraire, on ne comprend pas ces protestations. Ceux qui ont commis de telles atrocités doivent être punis, point. Et le fait qu'ils soient alsaciens n'y change rien. C'est peut-être même encore pire, plaide dans la presse un parlementaire de Haute-Vienne. Car, je le cite, « un Alsacien avait moins qu'un Allemand le droit de tirer sur les civils. » On enrage de voir les accusés se poser en victime. Ce sont aussi deux régions et deux mémoires qui s'affrontent lors de ce procès. Dans la salle d'audience, l'ambiance est tendue. Terriblement tendu. Mais la campagne que mène l'Alsace finit par porter ses fruits. Le 27 janvier 1953, l'Assemblée nationale vote l'abrogation des dispositions votées en 1948. Pour les familles des victimes d'Oradour, c'est la stupeur et l'indignation.
Nous voyons M. Brouillot, président de l'Association des familles des martyrs d'Oradour, se lever au fond du prétoire. Près de 400 députés cette nuit, dit M. Brouillot, ont déclaré innocent une partie des assassins d'Oradour. Dans ces conditions, nous, les victimes, nous n'avons plus qu'à quitter ce tribunal pendant que les assassins rentreront tranquillement chez eux. La voix est ferme, résolue et presque farouche. Le président, silence ! Et comme M. Brouillot continue à manifester l'indignation de ses mandants, le président se fâche. Garde, expulsez les perturbateurs. M. Brouillot, asseyez-vous ! La voix s'adoucit. Messieurs, le texte voté cette nuit par l'Assemblée nationale n'est pas encore voté par le Conseil de la République. Pour le moment, il n'y a rien de changé. Le tribunal doit continuer à juger. J'ajoute que le tribunal s'efforce de placer cette affaire dans le cadre du bon vieux code pénal. Jusqu'à présent, messieurs, croyez-moi, on n'a pas fait mieux.
Si les Alsaciens ne peuvent plus être jugés sur la responsabilité collective, ils peuvent l'être individuellement, selon le droit commun. Le procès suit donc son cours dans la salle bondée du tribunal de Bordeaux. Le 13 février enfin, le verdict tombe. Du côté des Allemands, le plus haut gradé, un adjudant, est condamné à mort. Un accusé qui a pu prouver son absence lors de la tuerie est relaxé. Les autres sont condamnés à des peines allant de 10 à 12 ans de travaux forcés ou d'emprisonnement. Du côté des malgré nous, les peines vont de 5 à 12 ans. Enfin, un Alsacien mais engagé volontaire, celui-là, est condamné à mort pour trahison. Pour les proches des victimes, c'est l'amertume. Non seulement le procès n'a apporté aucune réponse sur les raisons du massacre, mais de surcroît, les peines leur paraissent dérisoires devant l'ampleur du crime. En Alsace, à contrario, ces condamnations sont perçues comme intolérables et déclenchent une colère terrible, dont rendent compte les actualités Gaumont.
L'Alsace a mis ses drapeaux en berne à l'annonce du verdict de Radour. C'est dans une atmosphère de deuil national que la nouvelle de la condamnation des accusés alsaciens a été accueillie dans les plus petits villages où les monuments aux morts ont été voilés de crêpes. Succédant à la stupeur, une vague d'indignation a soulevé Strasbourg où la population, tout en se défendant de vouloir innocenter les crimes affreux de Radour, reproche au juge de Bordeaux d'avoir condamné des irresponsables. Quelque opinion que l'on puisse avoir sur ce verdict, le désarroi de l'Alsace est un fait devant lequel aucun Français ne doit fermer les yeux.
Plusieurs rassemblements sont organisés, des maires démissionnent, des administrations menacent de grève, des avocats refusent de plaider. La fronde prend de telles proportions que le gouvernement commence à prendre peur. Et si toute cette affaire relançait les velléités autonomistes en Alsace? Alors, au prétexte de l'unité du pays, l'Assemblée nationale vote en catastrophe une loi d'amnistie seulement une semaine après le verdict. Les malgré nous sont libérés et la tension redescend aussitôt dans la région. Mais à Oradour, évidemment, on est écœuré. Cette décision politique est vécue comme une véritable trahison. Désormais, hors de question d'inviter les représentants des pouvoirs publics aux commémorations. L'Association des familles des martyrs rend la Légion d'honneur qui lui avait été décernée et placarde à l'entrée du village en ruine le nom de tous les parlementaires qui ont voté l'amnistie. Les années passant, des liens se sont tout de même peu à peu retissés avec les autorités. En 62, le général de Gaulle, alors président de la République, vient à nouveau déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. 3 ans plus tard, le panneau listant les députés ayant voté l'amnistie est retiré. En 1999, un centre de la mémoire est inauguré à Oradour, porté par le Conseil général, avec le soutien de la région et de 2 ministères, et en accord avec l'Association des familles de martyrs. Désormais, c'est en passant à travers cette bâtisse solennelle de verre et d'acier que l'on accède aux vestiges de ce que fut Oradour. Chaque année, plus de 300 000 personnes visitent le village martyr en silence.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le massacre d'Oradour sur Glane, notre invité Nicolas Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat et auteur de plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et donc du livre Oradour sur Glane, 10 juin 44, histoire d'un massacre dans l'Europe nazie, livre paru l'année dernière chez Talendier. Alors, je rappelais aux auditeurs que Oradour sur Glane, vrai village, hein, là où s'est passé le drame, eh bien, on peut le visiter. Alors, il s'agit d'un déplacement mémoriel, c'est assez impressionnant parce que comme quand on visite à Auschwitz, on voit des groupes de visiteurs qui ne disent rien parce qu'il n'y a pas une parole qui peut sortir. Et il y a ce silence impressionnant et donc, voilà, si vous passez du côté de Limoges pour entretenir la mémoire de ce qui s'est passé, eh bien, il faut aller visiter Oradour-sur-Glane. Alors, comme l'indique votre livre, son titre, hein, il a à cœur de replacer Oradour dans une histoire européenne. On se souvient d'Oradour en France et à l'international, c'est devenu un symbole, une réalité, mais on n'a pas oublié d'autres massacres, hein, comme celui de Dystomo en Grèce, exactement le même jour qu'Oradour, le 10 juin 44, ou encore les nombreux massacres perpétrés par la division d'Eisreich sur le front de l'Est. Qu'est-ce que ça dit à ce moment-là de la stratégie nazie qui ressemble à celle de la terre brûlée, d'une sorte de rage face au scénario de la guerre qui n'est pas favorable aux Allemands?
1944, c'est une année où effectivement l'Allemagne encaisse des défaites sur tous les fronts. Et dans un contexte comme celui-là, elle intensifie la répression, qui est déjà extrêmement dure, extrêmement brutale, dans les territoires de l'Est, la Pologne, l'URSS, les Balkans, la Grèce, la Yougoslavie, où des villages sont détruits par centaines. notamment ce village de Distomo qui est détruit en même temps en Grèce qu'au Radour-sur-Glane. Cette politique de maintien de l'ordre extrêmement brutale se révèle plus souple en Europe de l'Ouest, notamment en France pendant de longues années, parce que l'Europe de l'Ouest n'est pas vouée à la colonisation, elle est vouée à être exploitée pour l'effort de guerre allemand, et à ce titre, les occupants ont besoin de s'appuyer sur des administrations locales qui leur permet également de participer à la persécution, à la déportation des Juifs. Donc les Allemands ne pratiquent pas à l'Ouest ce qu'ils font à l'Est, c'est-à-dire massacrer des villages par centaines. Mais en 1944, Oradour va être une transposition partielle de cette politique menée à l'Est et donc en France.
Mais est-ce qu'elle a un rapport direct avec la fin de la guerre et ce scénario que les Allemands sont bien... Il ne va pas dans leur intérêt. Est-ce qu'il y a cette espèce de rage comme ça ?
Oui, parce que les Allemands vivent dans la hantise d'un véritable anéantissement à ce moment-là. Le Troisième Reich joue sa vie. On a énormément de discours au cadre du parti nazi sur ce point. Les Allemands, d'ailleurs, doivent encaisser le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, 4 jours avant Oradour. Et la bataille de Normandie est véritablement perçue par la Wehrmacht, par l'appareil d'État nazi, comme une bataille pour la survie. C'est-à-dire que l'Allemagne doit consacrer d'énormes forces à l'Est, mais elle est prise à revers tout à coup, ce fameux D-Day.
On a identifié 643 victimes du massacre d'Oradour. Il se peut qu'il y en ait en réalité davantage.
On avait pu identifier pendant longtemps 642 victimes. Une 643e victime, une réfugiée catalane, a été identifiée en 2020. Mais il est vrai que les dites victimes étaient dans un état tel que ça n'a pas facilité les identifications, puisque les Allemands ont incinéré les corps, donc les corps n'étaient pas toujours, loin s'en faut, identifiables. Dès l'été 1944, on a parlé, et c'est un chiffre tout à fait crédible, de 800 victimes.
Ah oui. Alors on va entendre quelque chose de désagréable, parce que ça n'empêche pas certains de développer des théories négationnistes, qui ont notamment été relayées par Jean-Marie Le Pen. Je vous propose d'écouter un extrait de l'édition de Limoges du journal télévisé de France 3, c'était le 13 janvier 2005.
Indignation, mépris, écœurement, les réactions sont nombreuses et la condamnation unanime après les propos tenus par Jean-Marie Le Pen. Dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, le chef du Front National affirme que l'occupation allemande en France n'a pas été, je cite, particulièrement inhumaine. Il laisse par ailleurs planer le doute sur ce qui s'est passé à Oradour. Alors avec nous sur ce plateau ce soir, Robert Hébras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, on le rappelle, l'un des rescapés du massacre d'Oradour. Face à ce genre de propos, on a toujours le même problème. On se demande, est-ce qu'il faut en parler, quitte à faire le jeu du Front National, à faire sa publicité, ou bien est-ce qu'il ne faut rien dire, mais c'est pas possible de ne rien dire.
Ben c'est pas possible pour les médias de ne pas en parler, parce que si nous n'en parlons pas, si vous n'en parlez pas, il remettra ça. Alors je pense qu'il faut quand même en parler.
Ben voilà, on en parle. On ne parle que de la réalité historique. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Le négationnisme d'Oradour, il commence dès le jour même du massacre, vous l'avez dit d'ailleurs. Il est impératif pour les Allemands de présenter le crime comme étant justifié, aux fins de semer la terreur et de justifier leurs propres atrocités. Mais le négationnisme va... Ces discours négationnistes vont évoluer après la guerre. Les anciens officiers de la division Das Reich vont chercher à se défendre, à se réhabiliter auprès de l'opinion publique, notamment en Allemagne de l'Ouest, et prétendre que ce massacre aurait été perpétré de manière certes justifiée, mais par un officier qui était donc ce fameux Dieckmann, qui aurait été particulièrement exaspéré par les méfaits de la résistance. Ce discours va se radicaliser dans les années 1970-1980. Il va aboutir en fait à un scénario totalement fantaisiste d'une bataille qui aurait eu lieu à Oradour entre maquisards et SS. Les victimes civiles ne seraient dans cette logique que des victimes collatérales. Ce scénario, il n'est pas porté quand même par n'importe qui. Il est porté par un Allemand qui s'appelle Herbert Tegeu, qui était un ancien nazi, ancien gardien de camp à Dachau, est devenu négationniste après la guerre, obsédé par la réhabilitation du Troisième Reich. Et les allégations de Tegeu vont être diffusées au sein de l'extrême droite française, notamment un militant néo-nazi qui s'appelle Vincent Renoir, Et Jean-Marie Le Pen va rendre un hommage appuyé à ces négationnistes en 2005.
France Inter. Affaires sensibles.
Nicolas Bernard, quand le procès d'Oradour se tient enfin à Bordeaux, nous sommes en janvier 1953, soit 8 ans après la fin de la guerre, et l'heure n'est plus vraiment à la vengeance. Une première loi d'amnistie a été votée en 51 au nom de la réconciliation nationale, comme d'habitude. Une autre va l'être à l'été 53. Ce n'est plus le temps de la vengeance, c'est le temps de la justice. Est-ce que ça explique la relative légèreté des peines ?
Le procès arrive, certes un peu tard, 9 ans après les faits, à une époque où le gouvernement français veut aller de l'avant, notamment se réconcilier avec l'Allemagne de l'Ouest dans le cadre de sa politique de construction européenne. Et effectivement, oui, justice doit être rendue, c'est ce qui est attendu par les victimes du massacre, du moins les rescapés, leurs proches, mais ces victimes vont finalement être déçues parce qu'il va s'avérer que ce procès tournera à la foire d'empoigne autour de la question des malgré nous.
Eh oui, revenons sur cette question. Déjà d'un point de vue historique et d'un point de vue juridique, elle est d'emblée extrêmement compliquée et sensible.
Oui, parce que dans les mois qui ont suivi le massacre, ce dernier a été présenté comme un symbole de la barbarie allemande. Or, il s'avérait que cette barbarie a vu y participer des soldats SS, certes, mais qui étaient français, des Français d'Alsace. Alors, des malgré nous, des incorporés de force, vous l'avez dit, c'est un drame qui a frappé l'Alsace-Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs dizaines de milliers de malgré nous, d'ailleurs, sont morts sous l'uniforme. Normalement, c'est une véritable tragédie historique. Et en l'occurrence, paradoxe terrible, les malgré nous, les Alsaciens, étaient très minoritaires au sein du détachement qui a rasé Oradour. Ils étaient une vingtaine. Or, dans le box des accusés, ils sont 14. Il y a 14 Alsaciens, 13 malgré nous et un engagé volontaire. Sur 21 accusés, c'est-à-dire qu'ils sont majoritaires parmi les accusés du procès de Bordeaux. Et l'Alsace a l'impression que c'est elle-même, cette région, qui est en procès.
Ah oui. Et plusieurs décennies plus tard, en 83, alors on n'est plus en France, il y a un autre procès lié à Oradour, en RDA cette fois. Il s'agit du procès de Heinz Barth, un officier de la division Das Reich qui a participé au massacre et qui a été retrouvé par la Stasi. Comment s'est déroulé ce procès ?
La Stasi avait retrouvé 3 SS et l'Allemagne de l'Est a décidé de n'en juger qu'un pour éviter de prêter le flanc à la critique, puisque l'Allemagne de l'Est passait son temps à dire que les anciens nazis pullulaient en Allemagne de l'Ouest. Mmh. Et divulguer l'existence de 3 SS aurait été véritablement très problématique. Si bien que le procès s'est limité à Heinz Barth, qui était un officier de la Das Reich, un lieutenant, qui a été de très près concerné par le massacre, qui a été interrogé et qui a livré des aveux circonstanciés, sans avoir d'ailleurs été le moins du monde torturé. Son procès a vu également, son procès était public, son procès a vu également la justice est-allemande inviter des rescapés du massacre, notamment Robert Ebras, qui ont pu s'exprimer devant cette juridiction. Et Heinz Barth est le seul Allemand à avoir été condamné par une juridiction allemande pour Oradour.
Alors, deux points à éclaircir, des points factuels. Le lundi 12 juin, soit 2 jours après le massacre, des soldats allemands reviennent à Oradour pour enterrer les corps. Et puis finalement, alors devant l'ampleur de la tâche ou autre chose, ils arrêtent en cours de route, on sait pourquoi.
Mais ils étaient pressés, parce qu'ils devaient revenir vers la Normandie à ce moment-là. Comme vous l'avez dit, ils doivent également diffuser des rumeurs selon lesquelles le massacre était justifié. Donc il s'agit, malgré tout, d'effacer le plus de traces compromettantes possibles. Et notamment les très très nombreux, les plusieurs centaines de cadavres de femmes et d'enfants qui se trouvent dans l'église, qui ont été brûlés en grande partie, mais qui doivent être effacés de la réalité du massacre, pour éviter de donner prise à la propagande de la résistance sur ce point. Donc les Allemands sont pris entre deux feux, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils ont cet impératif de remonter vers la Normandie où la Wehrmacht joue la vie du Reich, mais d'un autre côté, il leur faut effacer les traces du massacre, d'où cette opération bâclée.
Et puis, lors du massacre, des voisins qui s'en sont rendus à Oradour ont été tués par les soldats à leur arrivée sur place, ça on l'a raconté. En revanche, les voyageurs du tram prisonniers, finalement, sont relâchés. Comment expliquer ça?
Alors, on n'a jamais eu d'explication très claire sur le sujet. On peut supposer qu'ils ont été libérés pour diffuser l'information du massacre. C'est-à-dire que les SS comptaient probablement sur eux pour être les premiers vecteurs d'information du massacre. Du reste, les SS ne se sont pas privés de leur faire croire qu'ils avaient découvert des munitions de la résistance, des munitions américaines dans le village, ou que le village payait pour la capture d'un officier allemand, etc. Donc, on peut supposer que les fameux passagers du tram n'ont dû leur survie qu'à la volonté des Allemands de diffuser leur première rumeur et leur première propagande.
Bien, merci. Ce sera le mot de la fin, Nicolas Bernard. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Oradour sur Glane, 10 juin 1944, histoire d'un massacre dans l'Europe nazie, paru en 2024. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, le massacre d'Oradour sur Glane, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Stéphane Beaufils.